Bonjour, bienvenue à la maison Heinrich Heine. Nous vous accueillons donc aujourd'hui pour une séance un peu spéciale, une séance inaugurale. Tout au long de l'année 2025, la maison Heinrich Heine vous propose de découvrir ou de redécouvrir la mise en scène du Jahrhundertring ou du Ring du Centenaire par Patrice Chéreau et Pierre Boulez, en diffusant les quatre parties de la captation de cette tétralogie de l'anneau du Nibelung, den Nibelungring de Richard Wagner, qui a été exécuté pour la première fois dans son intégralité en 1976 pour célébrer le centenaire de la création du Festival de Bayreuth. Si nous avons choisi de montrer cette captation légendaire aujourd'hui à nouveau, c'est pour célébrer un autre centenaire, celui de Pierre Boulez, ainsi que les 150 ans de la tétralogie de Wagner. Nous vous proposons donc quatre rendez-vous associant une rencontre avec une personnalité du monde de l'opéra liée au ring et, dans la suite, la projection d'une partie de la tétralogie. Nous commençons donc aujourd'hui avec Bettina Auer, qui sera interviewée dans la discussion avec Charlotte Landru-Chandès, que je remercie très vivement d'être avec nous, et dans la suite de la projection de l'or du Rhin. Pardon. Il y a trop de Rhin et Ring, et dans les deux phonétismes, je me perds. Mais vous avez bien compris. Donc, je salue très chaleureusement donc Bettina Auer, qui est dramaturge de la nouvelle production de l'or du Rhin à l'Opéra National de Paris, dans la mise en scène de Calixto Bieto, et donc Charlotte Landry-Chandès, qui est journaliste spécialisée dans la musique classique. Et elles sont accompagnées par Cornelia Geiser, que je remercie également très vivement, qui assure aujourd'hui la traduction consécutive, dans un sens et dans l'autre, de cet entretien. Je vous remercie pour ce petit signe qui me permet de préciser, notamment pour la projection tout à l'heure, de bien vouloir éteindre vos téléphones ou bien de les mettre en silencieux et aussi de ne pas faire des captations. C'est interdit. Nous avons les droits de projection, mais s'il vous plaît de respecter le fait que vous ne pouvez pas prendre des photos de la projection. Une petite annonce donc tout à fait pratique. Nous commençons avec l'entretien là maintenant tout de suite. Je donne tout de suite la parole à Charlotte Landru-Chandès. Mais dans la suite, après, nous allons faire une petite pause, une pause café, littéralement. Il y aura donc du café et quelque chose pour vous reconforter avant d'entamer la projection du film à 16h. Donc il y aura un petit moment de pause entre l'entretien et le film, et on vous invite de vous dégourdir les jambes en allant vers le foyer. Je remercie très vivement mes deux collègues, Sandra Claudel et Elsa Vinet, de la programmation culturelle et de la musique qui ont mis en place ce cycle. Et je vous invite donc de suivre notre programmation attentivement, ou encore mieux, de vous abonner à notre newsletter pour être au courant des trois rencontres qui vont suivre au courant de l'année. Bon après-midi.
Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien ? C'est bon, c'est bon. Merci tout d'abord à la maison Heinrich Heine pour son accueil. Donc, nous sommes ravis d'être en compagnie de Bettina Auer et Cornelia Geiser pour la traduction. Alors Bettina, tout d'abord, donc vous êtes dramaturge. Donc, c'est un terme qui ne parle peut-être pas à tout le monde. C'est un terme très fréquent en Allemagne. En revanche, en France, on ne sait pas toujours ce à quoi ça correspond d'être dramaturge sur une production d'opéra. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots votre métier ?
Bonjour, je m'excuse que je ne parle pas si bien.
Maintenant. Alors, bonjour, je m'excuse que je ne parle français si bien que je peux parler de Richard Wagner, deswegen spreche ich Deutsch. Ja, aber verstehen das denn viele hier? Ah, das ist ja super, das ist doch gut. Ja. Also, ich freue mich hier zu sein. Ich war noch nie hier. Ich war schon öfter in Paris, aber hier noch nie. Und wenn Sie nicht wissen, was eine Dramaturgin ist, sind Sie in bester Gesellschaft, denn viele Menschen am Theater wissen auch nicht, was wir so tun. Das hat damit zu tun, dass wir DramaturgInnen, dass wir immer sozusagen dazwischen sind. Wir sind im Hintergrund. Aber außer bei so einer Veranstaltung wie hier sieht man uns gar nicht unbedingt.
Voilà. Bonjour, je suis... Vous m'entendez bien ? Voilà. Je suis très heureuse d'être ici. Je suis déjà venue plusieurs fois à Paris, mais jamais encore j'étais conviée à la maison Heinrich Heine. Et si vous ne savez pas très bien ce que fait un dramaturge ou une dramaturge, vous êtes dans la meilleure compagnie possible, car même au théâtre, pas tout le monde sait ce que nous faisons, car nous agissons derrière, discrètement, et on ne nous voit jamais, sauf aujourd'hui, quand je suis sur le podium.
Also es gibt einmal so die Dramaturginnen, die an einem Opernhaus fest angestellt sind. Und da gibt es drei Bereiche. Ich versuche es kurz zu machen. Das eine ist sozusagen Teil der künstlerischen Leitung zu sein, zu überlegen, welche Stücke wollen wir präsentieren, welche Menschen wollen wir einladen, dass sie bei uns inszenieren oder singen oder das Bühnenbild machen. Das ist sozusagen der eine Teil. Der zweite ist dann wenn die Produktionen verteilt sind, dass dann die Arbeit beginnt mit dem Regie-Team. Also mit, mit dem Regisseur, Regisseurin, Bühnenbild, Kostüm, im besten Falle auch noch mit dem Dirigenten oder der Dirigentin. Dann bereitet man gemeinsam diese Produktion vor und das nennt man immer Konzeption. Das Wort haben Sie vielleicht schon mal gehört. Das heißt eigentlich nur die Erzählweise. Wie erzählen wir heute als die Menschen, die wir heute sind, das Stück. Was ist uns wichtig? Welche Themen finden wir wichtig und welche nicht? Das dritte mache ich, glaube ich, nach der Übersetzung, oder? Ja.
Voilà. Un ou une dramaturge dans une maison d'opéra est normalement employée avec un poste fixe et a plusieurs tâches à accomplir. Parfois, on fait partie de la direction artistique, à savoir, on choisit avec la direction artistique les pièces qu'on veut monter et on choisit aussi ou on conseille sur les artistes qu'on pourrait inviter pour cette production, soit les chanteurs, les décorateurs, les gens qui font les costumes, etc. Ensuite, il y a une deuxième activité qui commence une fois qu'on a décidé la pièce et invité les artistes de travailler sur le montage de cette pièce. Donc on travaille idéalement avec le metteur en scène, le décorateur, le ou la costumière et idéalement aussi avec une étape de travail qu'on appelle la conception. Et la conception est un moment où on s'interroge comment on raconte cette histoire de la pièce qu'on a choisie dans le monde d'aujourd'hui, pour le public d'aujourd'hui, quels sont les thèmes sur lesquels on insiste davantage et quels sont peut-être les thèmes qui sont moins importants et qu'on ne met pas en avant.
Und also immer wenn etwas recherchiert werden muss, also dann sind wir auch zuständig, also wie sah die Nationalflagge von Amerika oder von Finnland im 18. Jahrhundert aus, falls es jetzt gibt. Ja, also all diese Sachen, die man wissen muss, dafür sind wir auch zuständig, das dann zu recherchieren. Und der dritte Aufgabenbereich ist der journalistische. Also alles, was Sie lesen von Theatern, ob das auf der Website ist oder ob das in Programmhefte sind, das schreiben wir von der Dramaturgie. Und also ich würde das auch noch dazu sagen, die Vermittlungsarbeit. Also eben Veranstaltungen wie diese zum Beispiel oder Matineen. Ich weiß nicht, ob man das hier kennt in Frankreich. Also wenn man sozusagen dem Publikum schon mal die Produktion vorstellt oder Diskussionen oder zu sagen, jetzt müssen wir ein ganzes Richard-Wagner-Wochenende unbedingt machen zu unserer Premiere. Also das gehört auch zur Dramaturgiearbeit und sozusagen über das Profil eines Hauses nachzudenken. Ich war an vielen verschiedenen Häusern und jetzt bin ich aber seit 12 Jahren freischaffend und reise durch Europa mit verschiedenen Regie-Teams. Da habe ich sozusagen diese Aufgaben nicht mehr, sondern da konzentriere ich mich wirklich, die erste Zuschauerin auf den Proben zu sein. Wir bereiten zusammen das vor und dann bin ich auf den Proben und sage, ah, das verstehe ich aber nicht. Also ich bin ihre Stellvertreterin sozusagen am Anfang.
Donc, On a aussi des recherches à faire. Par exemple, si pour une production, on doit savoir quelle forme, quelle couleur avait un drapeau de la Finlande ou des États-Unis au XIXe siècle, ça nous incombe. On est aussi responsable du contact avec les journalistes. Tout ce que vous lisez sur une production d'opéra, en général, c'est écrit par le dramaturge. Tout ce que la maison publie pour se représenter, pour présenter les productions, la page internet, par exemple, aussi est conçue par le dramaturge. Ensuite, on fait souvent de la médiation culturelle, donc on présente les productions, on organise des débats avec le public, ou par exemple, si on a une grande production de Wagner, on réfléchit, est-ce qu'il ne serait pas bien de faire un week-end Wagner ? Et donc, on essaye de réfléchir et de travailler sur le profil d'une maison d'opéra quand on est employé d'une telle maison. Moi, depuis 12 ans, je travaille en freelance, donc toutes ces tâches ne m'incombent plus. Et je suis plutôt en train de travailler avec différentes équipes de mise en scène un peu partout en Europe. Une fois qu'on a parlé de toutes ces questions, je deviens la première spectatrice des répétitions, de la production. Donc, en quelque sorte, je vous représente tout au long des répétitions d'une production.
Ça suffit, hein ? C'est parfait. Je pense que le public a compris l'idée. Alors, avant de revenir plus précisément sur votre travail de mise en scène, en particulier sur Laure Durin, qui est en ce moment à l'Opéra Bastille, je vous propose quand même un mot sur Richard Wagner, qui est un compositeur sur lequel vous avez beaucoup à dire. C'est un compositeur donc, qui a marqué le XIXe siècle très profondément, qui a eu ses détracteurs et ses admirateurs, et qui a beaucoup séduit. Beaucoup de compositeurs se sont inspirés de ses trouvailles, de sa musique. Comment expliquer ce phénomène ?
Also er war Deutscher, ne? Der hat unheimlich viel geschrieben und geredet, weil er dachte, sonst kann er sich nicht, sonst wird er nicht verstanden. Also ich vergleiche ihn immer gerne mit Verdi, einem italienischen Komponisten. Der meinte nicht, dass er unaufhörlich irgendwelche Theorietexte schreiben muss, damit man sein Werk auch versteht. Der hat das anders gemacht. Mir ist das sympathischer, aber also ich leider mache ich jetzt ganz viel Richard Wagner in den letzten Jahren an den Häusern und ich habe ein sehr gespaltenes Verhältnis zu diesem Komponisten und dann tritt natürlich immer die Frage auf, trennt man Autor und Werk, ja? Denn der Mensch Richard Wagner war äußerst schwierig, das wissen Sie sicher auch, also so, und er hat eben sozusagen dadurch, dass er auch so viel geschrieben hat, er wollte unbedingt richtig verstanden werden. Er hat versucht, sein künstlerisches Werk, seine Opern, das sind ja also fast alles Opern, er hat ja kaum symphonisch oder sowas geschrieben, das hat er alles untermauert durch theoretische Texte, die keinen Spaß machen zu lesen. Ich kann Ihnen davon nur abraten, ja, also das ist nicht schön. Und er hat dadurch auch ein großes Aufsehen erregt. Also, und interessant ist, dass die nachkommenden Generationen oder auch die noch zu seinen Lebzeiten, die Komponisten und Komponistinnen, die da gelebt haben, mussten sich entscheiden, bin ich für ihn oder gegen ihn? Es gibt irgendwie nichts dazwischen. Ja? Und das kommt natürlich durch diese ich würde sagen, es ist ein bisschen angeberische von ihm und er hat natürlich aus der Oper, jetzt komme ich aber an, aus der Oper auf einmal ein Kunstwerk gemacht, das hat er geschafft, was sozusagen höchsten Ansprüchen genügt, was im Ansehen ganz hoch gewachsen ist. Denn eigentlich war sozusagen die bestangesehene Kunst zu der Zeit war die Kammermusik, war das Instrumentale, die instrumentale Musik. Oper war so ein bisschen, naja, so Unterhaltung und so weiter. Er war nicht so hoch angesehen und er hat das verändert. Er hat daraus ja quasi einen Gottesdienst gemacht. Jetzt, oder?
Donc, Richard Wagner était un Allemand et comme beaucoup d'Allemands, il a beaucoup parlé et beaucoup écrit, surtout beaucoup écrit pour qu'on comprenne son œuvre. Si je compare un autre compositeur de l'époque italien, Verdi, il a fait très différemment. Il met dans sa manière un peu plus ou beaucoup plus sympathique. Mais maintenant, je fais un peu comme Richard Wagner et je fais beaucoup de Wagner. Je vais vous parler de lui. Première question, est-ce qu'on sépare l'auteur de son œuvre ? Il était un homme très, très difficile, pas forcément sympathique et un grand, grand auteur. Il a écrit beaucoup parce que son ambition était de faire comprendre son œuvre lyrique. Donc, il a écrit pour chaque opéra des textes théoriques pour expliquer quel était son but. Et avec ses œuvres théoriques, il a eu beaucoup d'attention. La génération de ses contemporains, de ses compositeurs et compositrices contemporains, et la génération qui a succédé à Wagner devait se décider, être pour ou contre. Il n'y avait pas tellement de possibilité d'une position intermédiaire. Et pourquoi Wagner était tellement reconnu, c'est qu'il a réussi à hausser l'opéra, qui était à l'époque encore considéré plutôt comme un divertissement, au rang d'œuvre d'art absolue. À l'époque, c'était surtout la musique de chambre qui était considérée comme le plus noble des arts musicaux. Et avec Wagner, ça change et l'opéra conquiert cette première place.
Ja, und Wagner hat sich als sehr politischer Komponist verstanden. Also er war ja auch politisch ein bisschen tätig. Ich glaube, 1848, als er begonnen hat, sozusagen den Ring, da kommen wir später drauf, sozusagen zu konzipieren. Und zwar mit dem letzten Werk hat er begonnen. Also da ist er auch ein bisschen mit auf die Barrikaden gegangen. Wir hatten auch in Deutschland eine kleine Revolution, ne? Nicht so eine richtige wie hier in Frankreich, aber eine kleine. Und er wollte durch die Kunst, durch seine Werke, wollte er die politische Realität verändern. Er meinte, das geht nur über die Kunst. Und dann also es gibt ja auch sozusagen nur diesen Begriff der Wagnerianer, der Fans, in Deutschland sind die sind, ich weiß nicht, wie das hier in Frankreich ist, die also ihn sehr verehren. Und es gibt sozusagen, so hat er Anhänger geschaffen und die Komponistinnen wurden eben entweder Epigonen oder sie haben gesagt, nein, ich mache etwas extra was anderes. Also ein Beispiel ist Claude Debussy. Der war erst ein großer Anhänger, ist nach Bayreuth gepilgert und hat dann gesagt, nein, die Kunst muss, also die schreien mir viel zu viel bei Wagner. Kann man ja verstehen, oder? Also der hat, sagen, die Musik ist viel zu laut, das ist viel zu kraftvoll. Also das war ein Komponist, an dem man nicht vorbeikam. Er hat die Oper auch insofern revolutioniert, als er, ich nenne es mal, die Emanzipation des Orchesters vorangetrieben hat. Also das Orchester war nicht nur Begleitmusik, ja, sondern das Orchester hat eine ganz eigene Rolle zu spielen. Das ist für Musikerinnen, es ist viel interessanter, im Orchestergraben Wagner zu spielen als Verdi, ja, weil sozusagen die Hierarchie nicht so klar ist. Es gibt nicht sozusagen Gesang auf der Bühne und wir begleiten nur, sondern es gibt ein ganz eigenes musikalisches Geflecht im Orchestergraben.
Wagner était un compositeur éminemment politique. Il a même un tout petit peu participé à la révolution de 1848. Il est monté un tout petit peu sur les barricades, mais pas trop. Mais il a pensé quand même que le monde ne pouvait être changé que grâce à l'art. Et c'était un de ses objectifs énoncés principaux. En Allemagne, on a eu les Wagneriens qui étaient assez virulents à l'époque. Je ne sais pas comment ça s'est passé en France. Et les compositeurs, en quelque sorte, n'avaient pas d'autre choix, soit de devenir les épigones de Wagner, soit de choisir de prendre un chemin totalement différent. Et en ce sens, le cas de Debussy est intéressant parce qu'il est allé à Bayreuth. Il s'intéressait de très près à la musique de Wagner et en revenant de Bayreuth, il a totalement changé d'avis. Il trouvait qu'on criait trop à Bayreuth, que la musique était beaucoup trop forte et que pour lui, ce n'était pas du tout un chemin à prendre. En même temps, Wagner avait produit une sorte de révolution dans le domaine de l'opéra, notamment dans ce qu'on appelle l'émancipation de l'orchestre. Alors que, par exemple, chez Verdi, l'orchestre est là pour accompagner les airs. dans les opéras de Wagner, l'orchestre a un rôle beaucoup plus autonome et évidemment c'est beaucoup plus intéressant pour les musiciens de jouer les œuvres de Wagner dans cette perspective-là.
Vous parlez du rôle de l'orchestre qui ne se contente effectivement pas que d'accompagner les chanteurs dans les opéras. Et l'orchestre est aussi narrateur car c'est à l'orchestre qu'on entend notamment les fameux leitmotifs qui sont des thèmes qui illustrent, qui renvoient soit à un personnage, une émotion ou alors une entité, par exemple le désir, des choses comme ça. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus des leitmotifs, comment ça fonctionne, comment Wagner s'en sert-il ?
Ja, er hat, also das ist ein berühmtes Wort, Leitmotiv. Man muss immer dazu sagen, er hat das gar nicht so verstanden. Das haben auch die Nachfolger erst so benannt. Aber stellen Sie sich vor, der Ring, das sind ja nun 4 Opern. Und insgesamt sind das 16 Stunden Musik. Also das muss man erst mal schaffen. Ja? Also er hat ja auch immer seine Texte selber geschrieben, die Libretti. Das hat er alles im Kopf gehabt. Und wie nun hat er versucht, wie kann ich das musikalisch verbinden vom ersten Stück zum letzten? Und da war eben mit Leitmotiven zu arbeiten, war eine Möglichkeit. Das heißt, es sind kurze, prägnante musikalische Sequenzen, ein Takt oder zwei Takte, und die kehren wieder. Ja, die kommen wieder, und zwar nicht nur unbedingt, wenn sie auf der Bühne erscheinen, sondern sie erklingen zum Beispiel auch im Orchester, wenn eine Figur daran denkt oder wenn sie davon beeinflusst ist. Und das ist das Interessante. Also das Orchester sozusagen unterhält sich mit Ihnen als Zuschauerinnen über die Köpfe der Sänger hinweg. Die wissen das vielleicht gar nicht. Nicht, weil sie das nicht kennen, sondern die Figur weiß es nicht. Es gibt also sozusagen, es gibt einen Dialog zwischen Publikum und dem Orchester. Und soll ich mal zeigen? Ich hab extra mal sowas mitgebracht. Das haben eben auch Epigonen gemacht. Ja, aber das können Sie von hier aus nicht erkennen. Ne? Also das sind Leitmotive. Die heißen dann, als eine heißt das Rheingold-Motiv. Ja? Immer wenn das Rheingold erscheint oder wenn über das Rheingold gesprochen wird. Und die sind eben, das muss man ja auch erstmal schaffen, die sind so markant, dass man sie sofort wiedererkennt. Oder später kommt das Schwertmotiv. Und die ziehen sich eben durch die ganzen 4 Opern.
Donc le mot Leitmotiv n'est pas du tout de Wagner. C'est les générations d'après qui ont inventer cette notion. Et donc, il faut se représenter ce que c'est ce ring. C'est 16 heures de musique avec le texte, le livret écrit par Wagner lui-même. Et donc, son problème était de faire tenir ces 16 heures de musique ensemble et de les lier musicalement. Et c'est en ce sens et pour cet objectif qu'il a inventé des brefs séquences musicales, parfois c'est seulement un ou deux mesures, une ou deux mesures, et ces motifs sont récurrents. Par exemple, ils arrivent pas seulement quand on voit apparaître un personnage ou une notion, ils arrivent aussi quand le personnage pense à certaines choses, ou par exemple quand l'orchestre établit un dialogue avec le spectateur au sujet du personnage, donc le motif résonne sans que le personnage soit sur le plateau ou même au courant de ce qui se passe. Et donc ces leitmotifs qui ont des noms, par exemple il y a le motif du Rheingold, de l'or du Rhin, donc résonne à chaque fois qu'il s'agit de ce Rheingold, de cet or, quand on en parle, quand il est question de ce motif. Et après, on a d'autres motifs, comme par exemple le motif de la glaive. Et ce que Bettina vous a montré, et vous n'avez peut-être pas bien vu, était cette feuille avec les leitmotifs, avec quelques-uns des leitmotifs.
Donc peut-être qu'il peut être bien de faire un petit point sur le ring avant de poursuivre, parce que peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas ou pas donc le ring, la tétralogie de Richard Wagner, donc qui est un prologue et 3 opéras, L'Or du Rhin, La Valkyrie, Siegfried et le crépuscule des dieux. Donc, comme le disait Bettina, c'est environ 15-16 heures de spectacle. C'est absolument colossal, avec beaucoup de personnages, beaucoup de musiciens sur scène. Et peut-être pour vous résumer l'intrigue en quelques mots, donc dans les grandes lignes, l'histoire du ring, c'est celle du vol de l'or du Rhin, qui est le vecteur de toute puissance et de richesse. Donc deux lignées rivales, donc c'est vraiment pour résumer, donc une lignée issue de Wotan, qui est le dieu des dieux, et celle du nain, qui est tirée du nain Alberich, donc le roi d'un peuple souterrain appelé les Nibelungen. Donc ils vont tout mettre en œuvre pour récupérer cet or du Rhin. Et c'est finalement Siegfried, le descendant de Wotan, qui va y parvenir. Mais l'or, qui est forgé sous forme d'un anneau, que tout le monde va s'arracher, est maudit et conduit tous ceux qui tentent de s'en emparer à leur perte. Donc c'est une œuvre qui peut retentir fortement aujourd'hui. Et le ring est souvent considéré donc, comme une critique du capitalisme. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce point de vue ?
Das hat ja, Shaw schon im 19. Jahrhundert, George Bernard Shaw, der Autor, hat darüber schon einen Artikel geschrieben, über eben die Kapitalismuskritik, also wie Alberich mit den Nibelungen umgeht. Also man muss sich mal vorstellen, Richard Wagner oder auf der anderen Seite auch Giuseppe Verdi, die haben auf ihre eigene Zeit reagiert. Ja, beide haben sich als politische Komponisten verstanden. Beide wollten damit etwas über ihre Zeit sagen. Also, dass wir im Mittelalter sind oder dass wir in einer mythologischen Vorzeit sind, das ist eine Folie, aber das ist nicht gemeint. Gemeint ist das 19. Jahrhundert, also mit der kommenden, aufkommenden Industrialisierung und Entfremdung. Darauf hat er reagiert und wollte auf jeden Fall zeigen, dass sozusagen, es gibt ja diese beiden, das haben Sie eben schon gesagt, also es gibt Alberich und Wotan, beide wollen die Weltherrschaft, also James Bond. Ja? Also es ist wie bei James Bond, beide der Böse und der Gute, beide sind nicht gut, Vorsicht. Also beide sind schrecklich, wollen die Weltherrschaft und dafür tun sie alles Mögliche. Alberich hat das, also es, die ganze Geschichte fängt mit einem Verbrechen an. Ja? Das Rheingold wird gestohlen von Alberich, von wo es eigentlich noch sozusagen unschuldig ist. Er klaut es den Rheintöchtern und dann, weil er von ihnen weiß, man kann, wenn man da einen Ring draus schmiedet, kann man die Weltherrschaft erlangen und das möchte Alberich. Ja? Dann wird er auf der anderen Seite Wotan, der oberste Gott, wie Sie schon gesagt haben, der hat, es gibt so einen wunderbaren Text von Elfriede Jelinek, das Rheingold ohne H geschrieben. Und da sagt Brünnhilde am Anfang, naja, das ist ja ganz einfach, Papa hat sich mit seiner Immobilie verzockt und jetzt kann er den Kredit nicht bezahlen. Und dadurch sozusagen gerät das Ganze ins Rollen, dass zwei verschiedene männliche Gestalten die Weltherrschaft haben wollen.
Donc, au sujet de la critique du capitalisme, il y avait déjà au XIXe siècle le fameux article de George Bernard Shaw sur le ring. Il y a le Alberich et Wotan qui sont deux antagonistes qui veulent conquérir la domination du monde. Et Wagner et Verdi étaient deux compositeurs politiques qui réagissaient à leur époque. Et même quand on se trouve avec l'action au Moyen-Âge ou dans la mythologie nordique ou dans une autre époque très éloignée, ce dont voulaient parler les compositeurs était leur propre époque. Donc le 19e siècle, avec l'industrialisation et tous les changements, les bouleversements de société qui allaient avec. Et donc, vous avez ces deux personnages, Alberich et Wotan, qui veulent conquérir la domination du monde. C'est un peu comme dans James Bond, mais ce n'est pas exactement James Bond. Il n'y a pas un bon et un mauvais. Ils sont tous les deux des personnages assez douteux. L'histoire, comme un crime, c'est-à-dire le vol de cet or du Rhin, dont Alberich sait, si on travaille cet or et on fait un anneau, on pourrait avec cet anneau conquérir la domination du monde. Et je vous rappelle un autre texte littéraire est celui de Elfriede Jelinek qui écrit Rheingold sans le H, Donc, quand on enlève le H de Rhein, on arrive à un mot Rhein qui a la même sonorité, mais pas la même signification, qui veut dire pur, donc l'or pur. Et elle fait dire à sa Brunhilde au début de son texte, oui, bon, c'est une histoire de problèmes avec des immobiliers. Papa a acheté un bien immobilier et maintenant, il ne peut pas rembourser le crédit.
Ja, jetzt geht's weiter. Also so kommt das Ganze ins Rollen. Deswegen muss ja wiederum Wotan, um die Geisel auszulösen, Freya, also die Schwester seiner Frau, seine Schwägerin, die er gnadenlos geopfert hat, die ist ja mit den Riesen, die diesen Palast gebaut haben, wurde von denen entführt. Und um die auszulösen, muss er das Geld beschaffen. Und deswegen klaut er jetzt oder raubt er jetzt wiederum das Rheingold von das Gold von Alberich. Ja? Also die beiden nehmen sich da nicht sehr viel. Und ich habe das mit dem politischen Komponisten gesagt, weil natürlich auch wir Menschen von heute sind, wir, die jetzt die Aufführung machen, diese und wir natürlich auch mit diesem Stück auf unsere Zeit reflektieren. Ja, wir sind Menschen von heute. Ich kann ja nicht so tun, als käme ich aus dem 19. Jahrhundert, ja, sondern auch wir wollen etwas sozusagen über unsere Zeit aussagen mittels dieses Werkes. Und ich habe es schon versucht so anzudeuten, es ist ja eine gnadenlose Geschichte. Es gibt kein Mitleid. Das ist immer das, was der Regisseur sagt, der Regisseur Calixto Bieto. Es ist eine Geschichte ohne Mitleid. Jeder kämpft gegen jeden und jeder kämpft um alles und ohne Rücksicht auf Verluste. Und da sind wir doch heute angekommen, oder? Also da brauche ich da jetzt gar keine Verbindung zu heute zu ziehen, sondern die Zeiten werden rauer und roher, sie werden brutaler. Also das ist sozusagen schon als Werk an sich ein Spiegel auf unsere Zeit.
Donc, Wotan a ce problème, il doit rembourser l'argent dans le Rheingold, il doit rembourser de l'argent pour délivrer sa belle-sœur qu'il a sacrifiée sans le moindre problème aux deux géants qui ont construit son bien immobilier. Et donc, il doit se procurer coûte que coûte cet argent. Et comment il va se le procurer? Il va le voler. Donc, ils se doivent rien, ces deux-là. Et j'ai parlé tout à l'heure des compositeurs politiques qui réagissaient à leur époque. Et pour nous, c'est exactement la même chose en tant qu'êtres humains d'aujourd'hui. Nous devons ou nous voulons réagir à notre époque. Et notre époque, elle est représentée dans cette histoire avec toute sa cruauté. Il y a une lutte de tous contre tous, sans merci, sans pitié. Les gens utilisent tous les moyens. Donc, on a une représentation de ce que nous sommes en train de vivre.
Donc, justement, vous abordez un petit peu la... Vous parlez aussi de la mise en scène de Calixto Bieto à Bastille, qui finalement donc nous renvoie à notre époque. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer, pour peut-être les personnes présentes ici qui iront voir la production, qu'est-ce que Calixto Bieto a voulu mettre en scène? Lui, il prend le parti d'un monde où les hommes sont un peu démunis, dominés par la virtualité, la haute technologie, comment les uns réagissent par rapport aux autres. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette mise en scène qui rend Wagner très actuel?
Ja, also ich glaube sozusagen, die Brutalität, die steckt im Stück, die muss man gar nicht rausholen. Das ist alles voller Spannungen, also zwischen den Figuren. Und unsere Zeit, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wir wissen ja nicht so genau, wo wir jetzt hintaumeln mit der ganzen Digitalisierung. Jetzt kommt KI, was ist das, wie wird das unser Leben verändern? Also das sind so Punkte, über die wir versuchen, auf der Bühne nachzudenken. Also das sind die Fragen, die wir uns stellen. Was wird das mit uns machen? Was wird es mit der Gesellschaft machen? Also die Fragen, die Sie bestimmt auch haben. Also können wir irgendwann gar nicht mehr kommunizieren oder sozusagen, oder die Ängste, die ja auch mit KI verbunden sind, wird uns das die ganze Arbeit abnehmen oder wird sie uns helfen? Also, und es ist ja bei allen möglich, es zu missbrauchen und es auch für eine gute Sache zu brauchen. Also das sind so zwei große Themen für uns, die sozusagen wir anhand dieser Geschichte verhandeln wollen. Es gibt eine, ich arbeite schon ganz viele Jahre mit Calixto Bieto zusammen, und ich finde eins phänomenal, das kann wirklich niemand anderes, ich habe mit vielen verschiedenen Regisseurinnen und Regisseuren gearbeitet, das kann niemand anderes so wie er, dass er Menschen auf der Bühne entzünden kann. Also egal, ob die darstellerisch begabt sind oder nicht, ob sie schauspielerisch gut sind oder nicht, er wird aus allen gute Schauspieler und Schauspielerinnen machen auf der Bühne. Und es ist wunderschön, dazu zu gucken, wie er die Menschen befreit und ermutigt. Also es gibt fast in jeder Produktion irgendjemand, der entweder zu wenig Erfahrung hat oder sich noch nicht getraut hat und dann immer so ein bisschen unbeholfen. Die kennen die Sängerhand, oder? Die kennen sie auch, wenn geschaufelt wird und so weiter. Das sind ja Gesten, die kommen vom Singen und nicht vom Ausdruck. Und das schafft er bei allen, sozusagen sie so zu ermutigen, dass sie auf einmal da stehen. Sie werden immer schöner, sie werden immer selbstbewusster und können Dinge, die sie sich vorher gar nicht zugetraut haben. Und das finde ich einen unglaublich großartigen Prozess.
Donc la brutalité de notre époque, elle est déjà contenue dans la pièce, comme je venais de le dire. Et évidemment, nous essayons de nous poser, de réfléchir dans la pièce aux questions qui nous préoccupent tous maintenant. Le fait qu'il y a la révolution numérique, qu'il y a l'intelligence artificielle, la question comment cette intelligence artificielle va nous changer, va changer la société, les angoisses qu'elle fait naître, est-ce que bientôt nous n'aurons plus aucun travail et qu'est-ce qu'on va devenir, sont toutes sortes de questions qui génèrent de l'anxiété à notre époque et auxquelles nous essayons de réagir et de réfléchir sur le plateau. Je travaille depuis de nombreuses années avec Calixto Bieto. Je dois dire, j'ai travaillé avec beaucoup, beaucoup de metteurs en scène. Je ne connais personne qui a cette capacité incroyable de motiver les gens à devenir des vrais acteurs. Il y a dans toutes les productions toujours quelqu'un qui a moins d'expérience ou qui est plus timide. Et quel que soit le bagage avec lequel quelqu'un arrive dans la production, il arrive à le transformer en bon acteur. Il arrive à faire que tout le monde se tient sur le plateau, acquiert une beauté incroyable, oublie ses tics et devient sûr de lui. Et dans cette mesure, je ne l'ai jamais vu avec aucun autre artiste.
Man stellt sich natürlich, oder jedes Team stellt sich die Frage, was ist denn das Reingold heute? Also Gold ist immer noch wertvoll, ja, eine der sichersten Anlagequellen. Das ist das eine. Und wer sind diese Götter? Das sind die Mächtigen. Und eine These unseres Abends ist, der alte Gott ist abgeschafft worden. Wir kreieren gerade einen neuen Gott, in dem einen, der alles weiß und der alles sieht, der allmächtig ist, indem wir unsere ganzen Informationen ins Internet geben, ist sozusagen, wächst da ja eine Macht heran, die über uns ganz viel weiß, was wir gar nicht mehr beherrschen können. Das ist, niemand von uns weiß, wie das ausgehen wird, aber das ist quasi der neue Gott, beziehungsweise das andere ist, es gibt jetzt so viele Menschen, die sich für Götter halten, ja, die Mächtigen. Also ich sage jetzt nochmal Elon Musk zum Beispiel, oder? Das ist jemand, der sich bestimmt für Gott hält, der meint, er kann, also jetzt hat er ganz viel Geld, jetzt will er ja auch noch in die Politik, also da will er auch noch Macht gewinnen. Also das sind eher die Menschen, über die wir sprechen, wenn wir von Göttern sprechen im Stück. Das sind ja auch einfach das sind Bilder sozusagen für die Mächtigsten in diesem ganzen Gebäude, in diesem komplexen Gebäude von verschiedenen. Es gibt dann die Schwarzalben, also es gibt eben Alberich ganz unten und Mime, die so gerne oben auch mitspielen wollen. Und oben sitzen die Götter auf luftigen Höhen, so wird es immer gesagt. Und die sozusagen entscheiden die Schicksale. Und es geht ja, wie wir wissen, alles schrecklich aus.
Donc chaque équipe qui se confronte à cette œuvre Rheingold se pose évidemment des questions. Qu'est-ce que c'est cet orgue? Est-ce que ça signifie encore quelque chose pour nous? Oui, ça signifie encore quelque chose pour nous. C'est l'investissement parmi les plus sûrs qu'on puisse faire dans l'or. Et l'autre question, qui sont les dieux? On a un dieu, on voit un dieu vieillissant qui est en train de péricliter et en même temps la naissance d'une nouvelle divinité. Nous, on l'appellera peut-être Internet. On est en train de nourrir cette divinité avec un nombre incroyable d'informations. Donc cet Internet, c'est un tas de choses sur nous et nous n'avons aucune idée où ça va nous mener. Ou si on regarde autour de nous, on voit beaucoup de personnes qui se prennent pour Dieu, et je cite comme exemple Elon Musk, qui non seulement a une quantité d'argent absolument incroyable, maintenant il veut aussi faire de la politique. Donc ce sont des métaphores où les gens qui sont tout en bas dans l'histoire, les Alberich et Mime, qui aimeraient monter et dominer à la place des dieux, tout ça, ça s'observe dans notre société aussi.
Il y a un autre point d'actualité qui pourrait être abordé aussi par rapport au Rhin, alors du Rhin plutôt, c'est la place des femmes chez Wagner, dans le ring notamment. C'est un sujet que vous souhaitiez aborder, où on a tout type de profils, des personnalités très contrastées, par exemple la pauvre Freya qui offre la jeunesse éternelle aux dieux et qui est utilisée comme une vulgaire monnaie d'échange contre l'or du Rhin. On a Frika, la femme de Wotan, qui elle est une personnalité un peu plus forte, femme assez conquérante, mais qui en même temps reste dans l'ombre de son mari. Est-ce que vous pouvez nous parler plus précisément de la place des femmes dans cet opéra?
Vielen Dank. Eins meiner Lieblingsthemen ist das, die Frauenfiguren bei Richard Wagner. Du hast hier schon vorgestellt, die drei. Wir haben Freya. Das ist auch eine schreckliche Partie, die Arme. Sie macht es ganz, unsere Freya macht es ganz toll, aber die ist das Einzige, was sie immer singt, helft, helft. Ja? Also die wird ja absolut benutzt als Geisel sozusagen. Und auf der anderen Seite garantiert sie, das ist ja auch ein Thema von heute, Unsterblichkeit, Schönheit und Jugend. Also es gibt ja sozusagen ein Tabu, man darf nicht mehr älter werden. Ja? Wir werden alle älter, wir wollen älter werden, aber man darf nicht alt sein. Also wird unheimlich viel getan, dagegen zu wirken, zumindest äußerlich. Also dafür steht Freya. Dann gibt es die Frau von Wotan, Frika. Und das ist genauso wie in der griechischen Mythologie. Die haben einfach wirklich eine fiese, also eine gemeine Rolle, diese Obersten, ja, die Frauen, oder Gattinnen des obersten Gottes. Sie stehen nämlich für Moral und für die Einhaltung, ja, gewisser Regeln. Und das ist natürlich unsexy, ist klar. Also wer möchte das schon? Und wir haben das große Glück, dass wir eine fantastische Sängerin und Schauspielerin haben, Eve Mode. Die spielt, und das ist eben, obwohl diese Partie wirklich immer so ist, die ist die ganze Zeit am Meckern, du machst das falsch, das ist... Und bei ihr wird eine großartige, starke, wahnsinnig sexy Frau daraus, das ist ganz toll, aber da muss man wirklich viel für tun. Das ist, ja, Wagner, da komme ich später, und dann gibt es die dritte Frau, das ist Erda, das ist die Frau, die von unten kommt und auf einmal sagt, pass auf, Wotan, was du da tust, es wird tödlich enden. Tut es ja dann auch. Also wer den Ring hat, für den wird es, der wird sterben. Und die besucht er ja dann zwischen Rheingold und Walküre. Und auch da haben wir ganz großes Glück, eine Sängerin, die so toll ist und so stark, ja, die ist ja die Einzige, die dann Wotan noch beeinflussen kann. Und auf der anderen Seite haben wir die drei Rheintöchter. Das sind die jungen, hübschen Nixen, also in der Tradition der Nixen und Melusinen. So, also ich finde, da geht es noch, ja, also mit den Frauenfiguren. Aber insgesamt kann man sagen, im Werk von Wagner, es gibt immer die schwarzen Frauen, die bedrohlichen, und es gibt die weißen Frauen. Ja, die sind immer diejenigen, also Elsa zum Beispiel, ja, also die, oder wenn Sie an Senta denken, die sind immer dazu da, dass sie die Männer, die irgendwelche dämlichen Sachen gemacht haben oder Fehler gemacht haben, zu retten. Ja, und dafür opfern sie sich. merkwürdiges Konstrukt, also schreckliche Vorstellung. Es gibt, also man muss wirklich viel tun, und das kommt im Ring ja dann auch mit Brünnhilde, dass man starke Frauen da kreiert. Also ganz anders als die Frauenfiguren bei Mozart, das sind eigentlich, die sind viel moderner als die, also die Leidenden aus dem 19. Jahrhundert bei Richard Wagner.
La question, c'est vraiment un de mes sujets favoris, les femmes chez Richard Wagner. Donc je commence par Freya. La pauvre, elle est simplement victime, otage, et elle chante toujours « Helft, helft », donc « au secours ». Elle a l'avantage de représenter l'immortalité, la beauté et la jeunesse. Et quand on pense à notre monde d'aujourd'hui, on n'a plus le droit de vieillir, il faut tout faire pour rester jeune et belle. Donc c'est un personnage assez moderne. Il y a Frica, l'épouse de Wotan, et comme souvent aussi dans la tragédie grecque, les épouses des dieux les plus haut placés, elles sont les garantes de la moralité et du respect des règles, donc un rôle absolument pas sexy. Dans cette production, nous avons la chance incroyable d'avoir une chanteuse qui incarne à la fois une femme forte et une femme sexy. Mais il faut beaucoup travailler pour obtenir cette combinaison-là. Il y a un troisième personnage féminin qui est Erda, donc une femme qui vient des dessous de la terre, qui est la seule... qui puisse un petit peu créer un contrepoids à Wotan en lui disant « Attention, Wotan, ce que tu vas faire, ça va très très mal finir. » Et entre le Rheingold et la Valkyrie, Wotan lui rend aussi visite. Ensuite, il y a les filles du Rhin, donc les jeunes femmes qui incarnent la beauté. Et chez Wagner, on peut aussi dire qu'il y a deux types de femmes. Il y a les femmes noires, menaçantes, et puis il y a les femmes blanches qui sauvent un peu les héros qui ont commis des choses pas très bien en se sacrifiant pour eux. Et je pense notamment à Elsa ou à Senta. Mais les femmes chez Wagner, elles sont beaucoup plus stéréotypées que, par exemple, les femmes chez Mozart. Donc, au XVIIIe siècle, elles étaient beaucoup plus complexes que ces femmes du XIXe siècle chez Wagner.
On parle du XIXe siècle, ça me fait penser à une mise en scène dont on n'a pas encore parlé, mais qui va être le propos de la deuxième partie de cet après-midi, puisqu'il s'agit de celle de Patrice Chéreau, une mise en scène historique en 1976. Donc, Patrice Chéreau et Pierre Boulez sont réunis autour d'un ring de Wagner à Bayreuth. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? C'est une mise en scène qui a fait scandale à l'époque. Pourquoi ?
Ja, großartig, oder ? Es gab, Bayreuth hat sozusagen diese Tradition, am Anfang werden die Inszenierungen oft ausgepfiffen und dann werden sie irgendwann Kult. Genauso war das mit dem sogenannten Jahrhundertring, wo Sie ja nachher das Rheingold sehen, eine großartige Aufführung. Da gab es wirklich, da gab es Trillerpfeifenkonzerte. Das muss man sich mal vorstellen, also was Oper da so bewegen kann. Und es gab unter den Wagnerianern und Wagner-Fans gab es Pamphlete und Protestaktionen gegen diese Aufführung. Und ich meine, das war damals schon sehr gewagt. Ein 31-jähriger französischer Regisseur, Patrice Chéreau, kommt, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt seine erste Oper war, ja, und hat Maßstäbe gesetzt mit dieser Aufführung. Einmal, weil er eben auch so gut mit den Sängerinnen arbeiten konnte, also die spielen dann ganz toll, und weil er sozusagen es in Bilder gesetzt hat, es wurde konkret, es war ganz klar eine Zeit gemeint, es war die Zeit der Frühindustrialisierung und daraus hat er einzelne Elemente genommen, optische Elemente, und das war natürlich verstörend, es war nicht abstrakt, es gab keine Götter mehr, ja, sondern es gab die Mächtigen, ein Beispiel, das werden Sie nachher sehen, die Rheintöchter, das ist jetzt also nicht so ein schönes Getändel mit jungen, hübschen Frauen, sondern diesen Stauwehr. Und das war natürlich für viele Leute schwierig damals. Als er dann, also in Bayreuth ist es ja immer so, es nennt sich Werkstatt Bayreuth, das kommt Und dann wird es sozusagen über 4 Jahre und dann kann immer wieder von den Teams an der Aufführung gearbeitet werden. Deswegen Werkstatt. Und als ganz zum Schluss, bei dem letzten Ringzyklus gab es 90 Minuten Applaus.
C'était une production absolument grandiose. À Bayreuth, il y a une sorte de tradition quand il y a un nouveau ring. Le premier cycle se fait siffler et puis le quatrième, c'est les ovations du public. Et la résistance contre le ring de Chérault-Boulez était absolument quelque chose d'inouï en 1976. Il y avait des concerts de sifflements, des pamphlets, des actions de protestation, des manifestations dans la ville. C'était un projet extrêmement audacieux. On a fait venir un metteur en scène français de 31 ans, dont on n'était même pas sûr qu'il ait déjà mis en scène un opéra. Et il a fait un travail avec les chanteurs absolument fantastique. Il les a transformés en acteurs, ce qu'on avait dans ce sens jamais vu à Bayreuth. Il a concrétisé l'époque du ring, donc tout se passait plus dans une abstraction temporelle et dans un espace qu'on ne pouvait pas situer non plus, mais très concrètement dans un décor de la pré-industrialisation. Et je donne un exemple très concret, par exemple les filles du Rhin, la scène avec les filles du Rhin et le rap de l'or se passait devant un barrage, devant un énorme barrage. Et on parle à Bayreuth de la Werkstatt Bayreuth, donc atelier Bayreuth. Ça veut dire que les équipes chargées d'une production de ring pendant 4 ans peuvent revenir et chaque année modifier des choses. Donc entre le premier cycle et le dernier cycle, 4 ans plus tard, beaucoup de choses peuvent se passer et les représentations peuvent pas mal évoluer. À la fin du dernier cycle Boulez-Chérault, il y avait 90 minutes d'applaudissements.
90 minutes, c'est beaucoup, hein. Déjà 10 minutes, c'est pas mal. Alors là, pour terminer peut-être, parce que nous arrivons déjà au terme de cet échange, peut-être un mot sur Bayreuth, donc une salle que Wagner a souhaitée pour représenter sa tétralogie. En quoi est-ce une salle unique, Bayreuth?
Ja, also Richard Wagner ist, glaube ich, der einzige Komponist, der es geschafft hat, dass extra ein Opernhaus für ihn gebaut wurde. Und er hat geträumt vom unsichtbaren Orchester. Er wollte das nicht sehen, er wollte es nur hören. Und es gibt es sozusagen etwas Spezifisches, was es nur in Bayreuth gibt. Da ist sozusagen der Orchester, also wenn Sie Publikum sind, ist der Orchestergraben zugedeckt. Das heißt, der Klang kommt von unten, geht erstmal auf die Bühne und dann zu Ihnen in den Zuschauerraum. Was für die Dirigentinnen und Dirigenten wirklich ganz schwere Aufgabe ist. Die müssen das ja koordinieren, also mit leichter Zeitverzögerung die Menschen auf der Bühne und das Orchester zusammenbringen. Also Wagner hat sich damals auch wahnsinnig darüber aufgeregt, über die Unsitten am Theater, ja, wer alles schlampert war und so weiter. Und deswegen hat er gesagt, ich will die gar nicht sehen, ich möchte sie nur hören. Und ich habe nur eine Empfehlung, also was meinem persönlichen Wagner-Bild total entspricht, ist die Darstellung in einem Film von Luchino Visconti, Ludwig der Zweite. Da geht es um den Ludwig den Zweiten von Bayern, der ja der große Anhänger war von Richard Wagner und der ihm ja auch dieses Bayreuth gebaut hat und ihn unterstützt hat. Und da sieht man Szenen, wie Richard Wagner mit Cosima, also seiner Frau, damals noch nicht Frau, zu Ludwig geht und sie ihm also ganz viel Geld aus den Taschen ziehen und ausleihen und ihm gnadenlos ins Gesicht lügen. Und er sagt, ja, aber da gibt es solche, also der König sagt, aber ich höre da so schlechte Gerüchte und das geht doch nicht. Die Frau, du hast was mit einer verheirateten Frau, Cosima Wagner war also damals noch nicht Wagner, war ja eigentlich mit einem Dirigenten verheiratet. Und sagt er, nein, das stimmt doch alles gar nicht. Ja. Und dann gibt es später Szenen, wie Cosima sagt, ja, also wir brauchen noch ein bisschen Geld. Richard muss sich noch mal anders ankleiden. Wir brauchen noch Geld. Und also es ist wirklich, also wie die den manipulieren, das ist gnadenlos. Jetzt fällt mir noch eins ein, was ich vorher noch nicht gesagt habe. Entschuldigung. Was für mich die Musik von Richard Wagner, der man erliegen muss, man kann gar nicht anders, so schwierig macht, ist, dass sie manipulativ ist. Jetzt komme ich wegen manipulativ drauf. Diese Musik manipuliert die Zuhörer und Zuhörerinnen. Und deswegen, also man kann sicher sein, dass wenn man Musik von Wagner spielt, dass es den total emotionalisiert. Also wird ja sehr gerne als Filmmusik benutzt. Ja. Melancholia von Lars von Trier ist ganz viel Tristan drin. Oder wenn Sie an Apokalypse Now denken, da sozusagen werden die amerikanischen Soldaten damit angefeuert, dass der Walkürenritt kommt. Also das ist möglich mit seiner Musik, ja, weil sie die Emotionen hochpusht. Und das kann man, dafür gibt es musikalische Ursachen. Man kann auch sagen, woher das kommt, warum ihm das gelingt. Also im Vergleich dazu, mit Mozart könnte man niemanden in den Krieg schicken. Das würde nicht funktionieren. Mozart hat immer eine Distanz einkomponiert. Aber ich habe immer das Bild, Richard Wagner greift uns in die Eingeweide und lässt uns nicht mehr los bis zum Schluss. Und deswegen entweder geht man mit auf der Rauschwolke oder man kann nur weggehen. Deswegen, dieser Mensch lässt nichts dazwischen zu. Und das hat als zwei musikalische Ursachen kann man nennen. Das eine ist sozusagen, dass er einen Mischklang bevorzugt hat, also dass man nicht die einzelnen Instrumente hört, sondern dass das sozusagen ein Ganzes ist. Und das Zweite ist, dass er oft so Harmonien nicht auflöst. Das größte Beispiel, ich sehe hier nicken, ich habe ein super verständiges Publikum. Also da geht es am Anfang, wird der berühmte Tristan-Akkord wird etabliert. Und dann immer, wenn man denkt, ach, jetzt können wir einmal entspannen, geht es aber weiter. Ja? Wir kennen ja das Prinzip in Dur-Moll, in der Tonalität, Spannung, Entspannung. Und das macht er nicht. Sondern eigentlich kann man sagen, ganz am Ende, nach 5 Stunden Musik von Tristan, kommt erst die Entspannung. Und das ist natürlich etwas, was mit, diese Musik macht etwas mit uns.
Donc, on va revenir à la construction de la maison d'opéra du Festspielhaus à Bayreuth. Wagner est le seul compositeur qui a quand même réussi qu'on lui construise une maison d'opéra pour lui et ses œuvres. C'est un cas unique dans l'histoire de l'opéra. Et la particularité est le fait que la fosse d'orchestre est invisible, est recouverte, parce que Wagner voulait entendre les instruments mais ne pas les voir. Et il s'énervait aussi sur un certain nombre de mauvaises habitudes qui, à son époque, avaient cours dans les théâtres. Donc, il voulait tout cacher. Et cela crée évidemment pour les exécutants un problème incroyable parce qu'il y a un décalage. La musique passe de la fosse sur le plateau et du plateau vers le public, ce qui crée un décalage dans le temps qui n'est pas du tout facile à gérer pour le chef d'orchestre et même pour les chanteurs, parce qu'eux aussi entendent tout avec décalage. Si on veut savoir comment Wagner est parvenu à se faire construire son théâtre, je pense toujours à ce film sur Louis II de Bavière de Visconti où il y a une scène dans laquelle on voit Wagner et Cosima manipuler ce pauvre roi en lui extirpant toujours des nouvelles sommes et puis le roi est un peu réticent, il dit bon il y a quand même des mauvaises rumeurs qui courent à votre sujet, vous avez une liaison avec une femme mariée et puis on lui dit non c'est pas du tout comme ça. À l'époque, effectivement, Cosima Wagner était encore la femme d'un chef d'orchestre, de Hans von Bülow. Et elle et lui, ensemble, manipulent donc ce roi et obtiennent de plus en plus d'argent. Et cette manipulation me fait penser à un autre sujet, c'est à quel point la musique de Wagner peut être manipulative. Et ce n'est pas pour rien qu'on l'utilise assez souvent dans les musiques de films. Je pense par exemple à Melancholia de Lars von Trier ou à Apocalypse Now, dans laquelle on peut vraiment voir comment agit cette musique. On ne pourrait jamais envoyer à la guerre des soldats avec la musique de Mozart. Mozart crée toujours une certaine distance entre lui et l'auditeur, alors que la musique de Wagner, elle vous prend par les tripes et après elle ne vous lâche plus jusqu'à la fin. Et quand on regarde ça d'un peu plus près, pour moi, c'est lié à ce qu'on appelle le Mischklang, donc une sorte de sonorité qui n'est pas après dissolue. Quand on pense par exemple à l'accord de Tristan, l'accord de Tristan reste, on a toujours l'espoir qu'à un moment sur cette incroyable tension va suivre une détente, mais cette détente ne vient jamais, donc vous restez toujours pendant les 5 heures de l'opéra dans cet état de tension, et c'est seulement à la toute fin, après 5 heures, que cette tension se relâche. Et ça, pour moi, est certainement une des raisons pourquoi on a cette possibilité de manipuler l'auditeur, le spectateur, avec la musique de Wagner, alors qu'avec Mozart, c'est absolument impensable.
Merci Bettina Auer, Cornelia Geyser, merci. Donc c'est la fin de cet échange. Donc un petit temps pour le public, je crois qu'il y a un petit goûter de prévu. Et puis donc vous pourrez éventuellement, si vous avez des questions, j'imagine, les poser à Bettina. Et donc on se retrouve à 16h pour la projection de L'Or du Rhin dans la version de Patrice Chéreau. Merci à tous. Merci.